100% CO avec Cyril Masson, Jean-Marie Jens et David Petitjean.
Bonsoir à tous, bienvenue, vous êtes sur 100%, 100% CO avec Jean-Marie Jens. Bonsoir Jean-Marie.
Et salut David.
Et Cyril Masson, salut Cyril.
Salut David, salut à tous, David Petitjean. Ouais. Little John, Juanito, comme on l'appelle.
Il manque plus que Robin des Bois, puis les Connell, et puis là on y est.
Le producteur de cette émission. On est très content de vous revoir tous, on est content surtout de recevoir nos invités. Quentin Walker, salut Quentin. Et puis Jérémy Fernandez, salut Jérémy.
Salut, salut.
Le local, on peut pas faire plus local. Hein, vous savez que on enregistre cette émission dans les locaux de 100% à Mazamé. Ben, voilà, Jérémy, le Mazamétain, vous le savez. Mais ça fait plaisir là d'avoir un peu cette petite odeur de Melsa là qui vient,
ouais, que tu viens loin, nous amener. Pas loin de la maison.
Alors on commence cette émission avec une info, évidemment. Vous venez de l'apprendre, vous l'avez peut-être entendu dans la journée. Si vous ne le saviez pas, ben on vous l'annonce sur 100%, la prolongation de Quentin Walker. Bravo, bravo Quentin, bravo. On est très content, Quentin Walker, pilier du Castres Olympique, donc qui prolonge. Ben, raconte-nous un peu, parce que qu'est-ce qui t'a convaincu, comment ça s'est fait, l'envie, le choix pour toi de prolonger l'aventure à Castres.
Déjà, voilà, merci à tous et je remercierai quand même le staff et le club pour cette opportunité. Moi, ce qui me fait prolonger ici, c'est que je me sens bien. Donc ça c'est un point important dans tous les compartiments, que ce soit au niveau du rugby et niveau de la vie, et voilà, avec le staff tout se passe super bien, avec les coéquipiers voilà je m'entends très bien, on a créé de vraies relations, que ce soit en dehors du rugby et bah, sur le terrain aussi forcément.
Pendant qu'il dit ça, il y a Jérémy Fernandez qui lui envoie des bisous, voilà, pour vous.
À son habitude. Et voilà, ma femme a un taf ici, elle se sent super bien. Et pour moi, l'équilibre d'un joueur de rugby, ça passe par son équilibre aussi en dehors du rugby. Donc voilà, c'était un choix où j'ai pas mis très très longtemps à accepter. Et voilà, j'en suis très 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 content.
Tu prolonges jusqu'en 2025, hein, c'est ça?
Exactement.
Qu'est-ce qui a changé pour toi en tant que joueur de rugby quand t'es arrivé l'an dernier? Je me souviens, on discutait, tu disais ben voilà, j'ai beaucoup de choses à apprendre, je vais évoluer. On rappelle, t'es encore relativement jeune pour un joueur au poste de pilier, hein, t'as encore de longues années devant toi. Qu'est-ce qui a changé entre le Quentin Walker qui est arrivé et celui-là maintenant qui prolonge?
Eh ben, il y a pas mal de choses qui sont passées l'année dernière, notamment au point de vue voilà de la chouette saison qu'on a pu faire. Donc du coup. Malheureusement, on a eu cet échec entre guillemets en finale. Donc du coup, tu prends conscience de pas mal de le boulot qu'il y a à faire et notamment les responsabilités à prendre. Voilà, c'est des choses qu'on a certainement pas fait comme il fallait en finale parce que le score n'était pas là. Mais après, voilà, d'évoluer à pas mal de choses, tu apprends et tu découvres les exigences du top 14. Et chaque week-end, c'est une remise en question perpétuelle. Alors voilà, c'est peut-être un peu bateau, mais voilà, ça fait partie de ça. Et notamment en Pro D2, tu l'as moins parce que c'était un peu plus facile que là, chaque week-end, tu rencontres des top joueurs, donc voilà, c'est l'exigence à tout point.
David ?
Oui, et parmi les choses qui ont changé, où est-ce qu'il y a toujours l'objectif de l'équipe de France ? Parce qu'on rappelle que Quentin a fait une tournée d'été entre Perpignan et Castres, est-ce que l'équipe de France, tu l'as toujours en ligne de mire ?
Bien sûr que ça reste un objectif, forcément, je serais menteur de dire non, c'est pas vrai, parce que c'est le rêve de toute personne, et surtout quand on l'a goûté une fois, c'est... Voilà, c'est d'autant plus atteignable parce que tu dis, pour j'y étais une fois, pourquoi pas deux? Et voilà, mais bon, il reste, il y a pas mal de. Il y a un sacré chemin à faire parce que voilà, ça devient sérieux, la Coupe du Monde approche. Donc du coup, les taux se resserrent, il y a d'autres gauchers qui font de belles performances dans le top 14. Et voilà, et puis à moi d'élever aussi pas mal de. Mon niveau de jeu sur pas mal sur pas mal d'aspects, ouais.
Allez, moi j'ai une petite question juste avant qu'on parle avec Jean-Marie de la rencontre à Bordeaux, qu'on vienne un petit peu dessus avec vous messieurs. Question pour toi Jérémy, c'est une question d'un supporter qui me posait, on discutait là ces derniers jours. Comment tu vis ce début de saison pour toi qui est un peu spécial, alors attention hein, je fais pas RMC, Fernandez, mais tu as fait tes deux feuilles de match où tu es remplaçant, derrière tu n'es pas sur la feuille, alors que finalement tu avais quasiment fini, enfin fait même d'ailleurs une grande partie de la saison dernière comme titulaire. Comment est-ce que tu vis ça? Est-ce qu'il y a une discussion aussi avec le staff? Enfin voilà, qu'est-ce qui fait que?
Eh ben, je vais te dire que c'est frustrant quand t'es joueur, t'as envie d'être tout le temps, tous les week-ends sur la feuille et jouer un maximum. C'est tout à fait normal. Hein. C'est le but d'un sportif. T'es compétiteur du début jusqu'à la fin. Moi, je le suis aussi. Et bien sûr que c'est frustrant ce début de saison. Mais l'année dernière aussi, j'ai eu un début de saison aussi difficile. Puis ça s'est enchaîné positivement pour moi. Donc voilà, une saison est très longue. Donc bien sûr, c'est frustrant les premiers matchs. Mais quand t'as 26 journées plus la Coupe d'Europe. plus s'il y a des phases finales, etc., ça te rajoute des matchs. Donc oui, au début t'es frustré, mais il faut savoir aussi que je reviens de loin de l'année dernière. Ouais. Donc j'ai fait une saison assez pleine, on va dire, donc je suis très content de ça, mais il faut travailler très fort. Et bien sûr, l'année dernière j'ai enchaîné pas mal de matchs, j'étais très content, mais il faut tout le temps se remettre en question. Les coachs font des choix, il faut les respecter et travailler à 200% pour rentrer dans les plans. Et je pense que c'est le plus important, c'est le travail. Et si, je pense, comme tous les joueurs, si tu travailles beaucoup, ben au bout d'un moment on te donne ta chance et c'est là qu'il faut la saisir. Donc je suis patient, je travaille fort de mon côté, et voilà, j'espère avoir de plus en plus de temps de jeu.
Allez, on te le souhaite. De toute façon, on sait qu'on va, comme tu le dis, la saison est longue. On sait qu'on va te voir sur le terrain. On va passer avec Jean-Marie au débrief. Jean-Marie. Allez, donc cette défaite hein, ce week-end contre Bordeaux, défaite 33-12. Jean-Marie, c'est toi qui étais à Bordeaux à Chabanc qui a ouais. commenté cette rencontre. Bon, mais qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce qui est ressorti de ce match pour toi?
Ben déjà, les Girondins avaient un plus la pression. Hein, ils étaient à zéro victoire, donc il leur fallait une victoire absolue. Ils avaient clairement mis une composition d'équipe pour affronter le CO. Christophe Ross nous l'a dit en après-match. Ils ont beaucoup, notamment, insisté dans le cœur du jeu, dans le cœur de la défense, avec beaucoup de pick and go, de jeux rapides après les rucks. Et les Castrés ont pas trop su y répondre, même s'ils ont quand même limité les pertes au niveau de ce secteur-là. Non, ce qui a fait beaucoup de mal, c'est les maladresses. Hein, pour avoir davantage de possession ou même se créer des actions, il n'y a pas eu vraiment d'action significative pour marquer des essais. Et puis l'indiscipline, mais bon, on en parlera un petit peu plus tard. Dommage, à un moment donné, et surtout vers la fin, et messieurs, vous me direz ce que vous en avez pensé, les Tarniers ont mis un petit peu plus de folie dans le jeu, dans le match, et on a vu les Girondins déstabiliser, il aurait peut-être fallu essayer plus tôt. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est deux ballons volés en touche par Gauthier Maravat. Ça fait vraiment plaisir quand on sait que c'est un secteur vraiment en travaux, en chantier. Bref, voilà, c'est encore décevant, un troisième match en bonus, c'est une défaite, mais bon, rien de très alarmant non plus, quoi.
Jérémy, Quentin, comment vous l'avez vécu ce match? On rappelle, Quentin, toi tu l'as regardé du coup à la télé, et toi Jérémy, tu étais dans le groupe, tu l'as vu depuis les tribunes. Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous en ressortez? Comment,
Quentin? Je te laisse donner ton avis, Quentin.
Ouais, c'est aujourd'hui on a fait le retour, donc bon, je triche un peu parce que on l'a vu avec le coach, mais non, j'avoue que moi perso de la télé, ça c'est frustrant parce que tu peux sortir à la mi-temps à, si je dis pas de bêtises, à 6-3.
Ouais, on est
donc
très proche.
Voilà, à ce niveau-là, on le dit, c'est, il faut être très exigeant, et là le fait de prendre une pénalité, tu retournes chez toi, enfin voilà, sur la touche qui est je crois qu'il reste 10 secondes à jouer à la touche milieu de terrain, et tu prends une pénalité, tu retournes chez toi, c'est compliqué en plus à défendre comme ça, voilà. Donc les l'essai, je pense, fait mal à la tête. En plus c'est dommage parce que Bordeaux finissent avec un franchissement franc. Vraiment, ils nous percent la ligne une seule fois. Donc, imagine sur un match où tu finis à 33 points.
Oui, t'as jamais été vraiment dominé.
Et je pense que défensivement, et même dans les rucks, si j'ai pas de bêtises, on envoie 8 ou 9 de ballons dans les rucks. Et ce qui est, sur un match de 14, ce qui est assez costaud, même défensivement. On a mis, je pense, une belle agressivité sur pas mal de choses. Mais voilà, ils ont su scorer de nos maladresses. Et c'est ça le problème, tu vois. On perd des ballons bêtement. Et du coup, bon, ben, tu prends un contre derrière. Tu donnes des pénalités. Je sais pas le nombre de pénalités à la fin du match. Mais
18 ou 19, ouais, j'ai plus en tête.
Mais... Sur un match de haut niveau, ça commence à coûter cher. Ouais.
Ouais. Jérémy, toi, ton sentiment sur cette rencontre?
Ouais, bah après, il a presque tout dit. Moi, je vais juste rebondir sur deux choses. C'est que, voilà, on en parle et on le constate. C'est notre indiscipline qui nous coûte très cher au final parce que. On leur permet de sortir facilement de leur camp, quoi. Et c'est ça qui est frustrant parce que tu mets une grosse pression défensive. Comme il en a parlé, tu te fais franchir qu'une fois. C'est-à-dire que tu défends bien. Mais tu les laisses ressortir facilement du camp avec une faute bête. Du coup, ils se retrouvent direct dans ton camp, quoi. Donc ça, c'est très frustrant et c'est un peu à l'image de notre début de saison. Les trois premiers matchs, c'est un peu ça. On est un peu trop indiscipliné. On a une qualité technique très bonne contre le Stade français qui nous permet de gagner. Mais, tu vois, ce match-là contre Bordeaux, il est un peu frustrant parce que tu te dis que ils ont pas produit beaucoup de jeux, mais qu'au final on leur a donné en faisant trop de fautes techniques, trop de fautes que ça soit discipline aussi. Donc, je pense que le mot qui peut résumer ça, c'est qu'on est frustré parce que c'est pas notre jeu de jouer comme ça. Donc, je pense que c'est de la frustration avant tout.
Jean-Marie, si tu devais ressortir, on aime bien nous faire ça, est-ce qu'il y a un ou deux joueurs castrés qui t'ont paru plus particulièrement en jambes? Est-ce qu'il y a des choses que t'as aimé?
Ben, Gauthier Maravat, particulièrement pour ce qu'il apporte dans le jeu aérien, au-delà de ses deux ballons volés, c'est peut-être un atout différent des joueurs déjà présents. Oussaraga aussi qui a bien confirmé, et le jeu au sol castré qui a été plutôt bon. Et puis là, il faut que Jérémy se bouche les oreilles. C'est vrai que Santiago Arata a encore été plutôt
performant au poste de demi de mêlée. Il est content, Jérémy.
Non, mais c'est une seule élimination. C'est une seule élimination entre les demi de mêlée et... Belle perf encore de Santiago.
Ouais, un petit moment sur Santi, parce que voilà, je l'aime beaucoup en plus, Santi. Et trois fois élu Olympien du match sur l'appli du Castres Olympique. Il est en train d'aller chercher un record qui est tenu par Benji Urdapilleta. Donc attention de ne pas partir trop vite. Il faut en garder pour la fin de saison. Allez, on va passer au débat parce que on a une vraie question à vous poser, messieurs. Est-ce que les Castrés sont des vilains garçons?
100% CO. Débat 100%.
On en parlait, Jean-Marie, tu le disais, Jérémy aussi, la discipline, l'indiscipline castraise qui coûte, hein, grand responsable de la défaite à Bordeaux, 18 ou 19 pénalités sifflées contre le Castres Olympique. Jean-Marie, pour toi, c'est rédhibitoire, on peut pas gagner un match à l'extérieur comme ça.
Ouais, mais je vais faire l'avocat du diable, évidemment. Je sais bien que... Et tu vas me dire que l'agressivité, c'est l'ADN du rugby et du club, et que parfois, ça peut amener à quelques fautes. Mais là, avec 19 pénalités à Chaban, c'est impossible d'exister en déplacement, on le sait bien. Même si c'est vrai que le CO était dans les clous sur le premier acte, ça s'est effrité plus dans les 40 dernières minutes, où ça s'est enchaîné, et puis l'UQ a profité de ça pour sanctionner les Castrés qui ont encaissé, on le disait aussi avec Quentin, deux essais dans les arrêts de jeu de chaque mi-temps. En conférence de presse, le manager et un joueur relevaient que c'était surtout un manque de concentration pour expliquer ces petites fautes bêtes, évitables. Donc peut-être que c'est quand même moins grave que ce qu'on peut penser. Puis on peut dire aussi que c'est que le début de saison, donc les réglages sont en cours. Donc mauvais garçon, non. Pénible, dur, évidemment, ça c'est l'ADN des Olympiens. Mais il va falloir quand même régler ce problème pour exister, quoi.
Qu'est-ce qui a été dit? Vous nous disiez, vous avez eu les retours avec les coachs sur cette question de l'indiscipline. Parce que j'imagine que quand on a un Pierre-Henri Broncan, il peut pas se satisfaire de ça, de ce nombre de pénalités. Jérémy, Jérémy, non, vas-y, Quentin, commence.
Non, mais ce qu'ils se disent, c'est que exactement ce qu'ils lui viennent de dire, c'est que quand tu fais trop de fautes, c'est dur de gagner un match. Hein. Tu peux pas gagner un match avec 35 fautes, 20 fautes, c'est pas possible. Il faut limiter un maximum les fautes pour empêcher l'adversaire de venir plus facilement chez toi.
Mais comment on corrige ça? À quoi c'est dû? Parce qu'il y a eu des hors-jeux, on parle de fautes de concentration. Vous êtes des pros, enfin, vous savez ce que vous faites. Tu vois ce que je veux dire? On va pas juste vous dire, les gars, concentrez-vous. Ça va chercher quoi?
Ça va chercher que quand tu joues un match, t'es dans le rouge. Il y a des moments où t'es dans le rouge, c'est dur de penser à « Ah, il faut que je me replace, je suis pas dans l'axe, ici et là. » Et tu vois, ces moments-là, c'est stupide parce que tu le fais jamais, et à ces matchs-là, tu sais pas pourquoi tu vas le faire, puis tout le monde s'enchaîne, tout le monde en fait une, et quand t'ajoutes la faute du 1, du 3, du 4, du 6, du 7, tout le monde en fait une, et au final, tu te retrouves à 20 fautes. Donc, vraiment, c'est du petit détail. C'est comme disait Quentin, c'est que ça soit technique ou disciplinaire, c'est du détail. Tu peux pas te permettre d'être hors jeu d'un mètre. Tu fais le mètre de plus en te replaçant, laisse pas traîner les mains. C'est des choses qu'on travaille très bien aux entraînements. La saison dernière, on l'a très bien bossé. Et c'est pour ça que, comme je te dis, c'est frustrant de voir que, au final, chacun fait une et au final, ça te cumule des fautes, quoi.
David, ouais, tu voulais.
Ouais, non, juste par rapport à ce match, on a bien compris que les Bordelais avaient tout mis sur la table pour attendre le Castres Olympique. Est-ce que justement, quand une équipe comme ça est entre guillemets plus en vie que vous, est-ce que c'est pas ça qui finalement, on court après quelque chose et on se met à faire des fautes plus que d'habitude?
Non, après, je pense pas que c'est une histoire d'avoir plus d'envie que nous. Non, ça, je pense pas. Clairement, non, parce qu'on est allé là-bas avec une équipe costaud, avec des ambitions de faire quelque chose. On lâchera aucun match, et ça a toujours été. Et on a un groupe pour ne pas lâcher les matchs, donc ça, c'est aussi chouette. Et non, après, des fautes, j'en reviens à dire des mauvais garçons, je pense pas, mais quand tu t'engages énormément, tu pourras pas éviter toutes les fautes. C'est le principe, parce que quelqu'un qui se cache, il fera forcément pas de bêtises. Mais quelqu'un qui va commencer à être agressif, violent, et voilà, tu t'exposes beaucoup plus. Je pense qu'il faut, on aura certainement toujours un peu de déchets par rapport à un surplus d'engagement, parce que c'est notre ADN, comme on le dit. Mais voilà, des fois, dans le rouge, tu veux faire toujours un peu plus, et finalement, ça, tu fais une bêtise. Ce qu'il faut enlever, pour moi, c'est les fautes un peu bêtes que tu peux éviter, et quand t'es pas dans l'engagement sur un jeu au pied, sur un hors-jeu, voilà, après dans un ruck, voilà, tu pourras jamais reprocher à quelqu'un qui met un gros plaquage et que voilà, ben, il est pris parce qu'il arrive pas à sortir. Ça c'est des fautes où ben pff, c'est pas évident. Mais voilà, sur des hors-jeux et sur les, par exemple sur le jeu aérien là, maintenant c'est un peu leur dada aux arbitres de prendre les mecs qui gravitent autour. Voilà, ça
il faut s'adapter faire, à
ouais,
ce genre de choses.
Ouais, c'est ça, voilà, faire un focus là-dessus plus que sur vraiment les fautes du jeu courant.
Bon Jean-Marie, je pense que avec tes acolytes là, vous nous avez convaincus. On va laisser les castrer encore un petit peu. Alors c'est bon, ils sont pas condamnés, ils échappent à la condamnation.
Non.
Bon, on va passer à la chronique du Loïc. Je sais pas si vous le savez les gars. On a un nouveau chroniqueur dans 100% CO. Ça fait depuis le début de la saison. C'est Loïc Jacquet. Et ben on va écouter sa petite chronique. Vous allez voir, il va nous parler des réseaux sociaux aujourd'hui.
100% CO. La chronique de Loïc Jacquet.
Et salut à tous. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Moi, en tout cas, super. Bon, c'est vrai qu'on aurait aimé que nos bleus et blancs en frappent un grand coup à Bordeaux. Mais tant pis. Habiller en blanc et en prendre 20 à Bordeaux ne nous aurait pas mis dans le rouge. Bon, 33. C'est pas encore allô docteur, mais il faudra faire front au prochain match contre de valeureux Coujoux qui, saison après saison, imposent le respect par le caractère qu'ils dévoilent match après match. Non. Cette semaine, je vais vous parler des réseaux. Et je ne parle pas du réseau électrique, ni du réseau téléphonique, ni du réseau DIAC. Mais non, de ces braves réseaux sociaux où aujourd'hui, tout se fait et se défait. Les faits sont là pour le prouver. Si l'on regarde le monde du rugby, qui jadis avait sa Bible, lue tous les lundis matins par tous les amoureux du rugby, le fameux Middle. Celui-là même qui retraçait une semaine de rugby national et international, à lui seul. Je revois encore mon grand-père le dévorer tout entier, avant que l'on ait le droit de poser nos doigts et nos yeux dessus. Aujourd'hui, notre brave journal jaune fait presque dépasser tant nous sommes inondés d'infos minute par minute. Résumé de matchs, débriefs, consultants, forums de supporters, lieu même où se mêlent les meilleurs entraîneurs et managers de France, les plus fins et subtils spécialistes du rugby, qui pourtant ne tiendraient pas 10 minutes au rythme de notre nationalo local, Carlos, en tant que supporter passionné et respectueux des valeurs de ce sport. Bien que relativement épargné dans notre forteresse castraise, il faut dire que notre rugby se perd socialement. Nos présidents de fédé, deux clubs devant les tribunaux, directeur de la Coupe du Monde en France licencié, ce brave Maxime Mermoz qui pleurniche sur les réseaux que Mathieu et Cameron lui ont envoyé une photo pas jolie et qui, dans la semaine qui suit, à travers ces mêmes réseaux, fait savoir qu'il cherche un club pour être entraîneur. Et toutes les semaines, un nouvel épisode. J'en ai moi-même eu la mauvaise expérience qui, outre les commentaires comme « Jacquet, t'es nul, t'as le niveau d'un fédéral ou pas plus » ou « Avec ce que tu gagnes, tu devrais avoir honte de te plaindre, tu es irrespectueux et arrogant », tout ça parce que j'avais dit que jouer le jour de Noël, c'était n'importe quoi. Bref, le rugby est un sport de valeur, de partage et de convivialité. Ne l'emmenons pas sur les terrains des people, des commérages, de toutes ces soi-disant stars qui écrivent le mot avec un S apostrophe. On vaut mieux que ça. Vive le sport, vive le rugby et vive le castre olympique.
La chronique de Loïc Jacquet, Cyril.
Merci Loïc. Alors, les deux affreux avec nous en studio, Quentin et Jérémy, ils sont éclatés de rire. Pourquoi? C'était magnifique. Il parle bien Loïc Jacquet.
Phénoménal. Ah ouais. Clairement, il est phénoménal.
Ah, moi, j'ai pas pu jerker là dans le vestiaire encore dans ma tête quand je le vois comme ça.
C'est bien parce
c'est
que
un homme politique.
Il est plus avec nous dans le vestiaire malheureusement. Mais ce qui est bien, c'est que ces mots, on les avait presque les mêmes l'année dernière. Il a pas changé en fait. C'est vraiment ces mots. Il est comme ça et c'est pas parce qu'il fait une chronique qui change. Non, c'est lui ça. C'est vraiment lui.
La chronique du Loïc. Merci en tout cas les gars. Je vous rappelle la principale information. On dirait presque une vraie émission. Ouais. La principale information de ce 100% CO, c'est Quentin Walker qui a prolongé. Il est à Castres jusqu'en 2025. C'est-à-dire qu'il va pouvoir embêter Jérémy encore quelques années. Merci les gars et à très bientôt. Ciao David. Ciao Jean-Marie.